Prions pour que Dieu nous éclaire. Ta parole, Seigneur, est une lampe devant nos pas, une lumière qui éclaire le chemin que nous suivons. Ouvre nos cœurs pour la recevoir. Donne-nous une vive intelligence pour comprendre ton enseignement et une mémoire efficace pour ne pas en perdre le moindre mot. Amen. Notre première lecture nous plonge dans le livre du prophète Jérémie. Jérémie est emprisonné par le roi Sédécias après qu'il a prophétisé la prise de Jérusalem par les Babyloniens. Nous lisons au chapitre 33, les versets 1 à 3. Jérémie était encore détenu dans la cour de garde quand il reçut pour la seconde fois une parole du Seigneur. Voici ce que déclare celui qui fait l'événement, qui le prépare et le met en place, celui qui se nomme le Seigneur. Appelle-moi et je te répondrai. Je t'apprendrai de grands secrets que tu ne connais pas.
Évangile selon Marc, nous sommes au lendemain de la journée des rameaux, donc de l'acclamation de Jésus à Jérusalem. Jésus et ses disciples font des allers-retours entre Béthanie et Jérusalem, distant de 3 km environ. Nous lisons au chapitre 11 les versets 12 à 14, puis 19 à 25. Le lendemain, au moment où il quittait Béthanie, Jésus eut faim. Il vit de loin un figuier qui avait des feuilles et il alla regarder s'il trouverait des fruits. Mais quand il fut près de l'arbre, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors Jésus dit au figuier, « Que personne ne mange plus jamais de tes fruits. » Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent ensuite à Jérusalem. Ici se place l'épisode des marchands du temple. Le lendemain, nous retrouvons Jésus et ses disciples qui ont repris la route vers Béthanie. Tôt le lendemain, tandis qu'ils passaient le long du chemin, ils virent le figuier. Il était complètement sec jusqu'aux racines. Pierre se rappela ce qui était arrivé et dit à Jésus, « Maître, regarde, le figuier que tu as maudit est devenu tout sec. » Jésus dit alors à ses disciples, « Je vous le déclare, c'est la vérité, ayez foi en Dieu. Si quelqu'un dit à cette colline, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit ce qu'il dit, arrivera. » Cela arrivera pour lui. C'est pourquoi je vous dis, quand vous priez pour demander quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera donné. Et quand vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi le mal que vous avez fait.
Dans l'épître de Jacques, l'apôtre vient d'exhorter le lecteur à la patience et à la confiance en Dieu. Il l'invite maintenant à la prière. Nous lisons au chapitre 5, les versets 12 à 18. Mes frères, ne faites pas de serment. N'en faites ni par le ciel, ni par la terre, ni d'aucune autre façon. Dites simplement oui si c'est oui, et non si c'est non. Afin que vous ne tombiez pas sous le jugement de Dieu. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il heureux? Qu'il chante des louanges. L'un de vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église, ceux qui prieront pour lui et verseront quelques gouttes d'huile sur sa tête au nom du Seigneur. Une telle prière, faite avec foi, sauvera le malade. Le Seigneur le remettra debout, et les péchés qu'il a commis lui seront pardonnés. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin d'être guéris. La prière fervente d'une personne juste a une grande efficacité. Élie était un homme semblable à nous. Il pria avec ardeur pour qu'il ne pleuve pas, et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Puis il pria de nouveau. Alors le ciel donna de la pluie, et la terre produisit ses récoltes.
De mon enfance, ma tante habitait Paris et je ne la voyais pas souvent. J'avais beaucoup d'affection pour elle et je trouvais dommage qu'elle soit si éloignée. Mais heureusement, nous pouvions lui téléphoner. L'annuaire de téléphone parisien qu'on appelait le Bottin ne contenait que des numéros commençant par des mots, plus précisément des noms de lieux ou de personnes. D'autre part, les appareils téléphoniques français comportaient des lettres en plus des chiffres. Ainsi, on composait les 3 premières lettres du mot sur le cadran rotatif, puis les quatre chiffres du numéro complet. Par exemple, Odéon 8400 aboutissait à l'horloge parlante. À cette époque, ça n'était pas une mince affaire de téléphoner à l'étranger. En Suisse, il fallait composer le numéro 14 pour obtenir le service des communications internationales, puis annoncer le numéro désiré à l'opératrice, et pour parler avec ma tante, il fallait, si je me souviens bien, demander Carnot 2368. Ensuite, il fallait attendre que la communication soit établie. Le téléphone, c'était donc quelque part l'école de la patience. Aujourd'hui, si certaines Bibles, comme celle que vous voyez ici sur son lutrin, sont aussi volumineuses que le Bottin, elles révèlent, vous en conviendrez probablement volontiers, un contenu beaucoup plus passionnant qu'un annuaire téléphonique. Et pourtant, si vous ouvrez votre Bible à la bonne page, vous allez y trouver le numéro d'appel de Dieu. Vous ne me croyez pas ? Alors je vous explique. Le numéro d'appel du Seigneur est Jérémie 33:03. Car si vous ouvrez votre Bible à ce numéro, vous allez lire ceci: appelle-moi et je te répondrai. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que nous pouvons contacter notre Dieu bien plus facilement qu'au moyen des téléphones des années 50. Ça s'appelle la prière. Et l'apôtre Jacques nous garantit que c'est très efficace. Jésus précise même qu'on peut s'en servir pour demander que la colline de Céligny aille se jeter dans le lac et que ça va réellement arriver si vous n'en doutez pas. Toutefois, et avant que vous ne sortiez de ce lieu de culte pour aller bouleverser le paysage de Terre Sainte, j'aimerais ajouter quelque chose. Dieu ne s'exprime pas de la même façon que nous. Non pas qu'il ait des difficultés à nous parler, non. C'est nous qui avons des problèmes de communication. Ensuite, les réponses que Dieu donne à nos appels peuvent nous surprendre ou nous paraître peu compréhensibles. Revenons au récit de Marc que nous venons de lire. Il est énigmatique. Il est même peut-être choquant pour celles et ceux qui ont la préoccupation de l'écologie. Jésus souhaite trouver une figue sur cet arbre alors que ce n'est pas la saison. Comme il n'en obtient rien, il décide de maudire le figuier et celui-ci sèche en une seule nuit. S'est-il fâché ainsi contre ce pauvre végétal parce qu'il aurait perdu son sang-froid ? Non. Jésus poursuit un but. Il a un message à faire passer et il utilise pour cela un moyen curieux, mais tout à fait parlant si on se donne le temps d'y réfléchir. Ainsi, si nous nous adressons à Dieu, nous pouvons même déplacer des collines. Quand vous priez pour demander quelque chose, dit Jésus, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera donné. Et ce n'est pas une promesse en l'air, c'est la vérité. Appelle-moi et je te répondrai. Encore faut-il être attentif à la réponse. Pas à cause de parasites qui perturberaient la liaison téléphonique, non, mais parce que cette réponse n'arrivera pas toujours comme nous le pensons. En plus, Dieu peut avoir un autre projet pour nous et sembler nous répondre à côté de la question. Voici un exemple d'exaucement de prière qui paraît ne pas correspondre à la demande, mais qui constitue pourtant une amélioration importante des conditions de vie de la demandeuse. Il y a plusieurs décennies, j'ai fait la connaissance d'une personne, d'une dame de la paroisse catholique de Saint-Robert. Alors qu'elle avançait en âge, elle avait annoncé à ses amis de la paroisse qu'elle ne se sentait plus la force de prendre part à des activités qui requéraient de l'effort physique et de la mobilité. Elle s'en excusait, mais elle avait ajouté qu'elle restait disponible pour prier et qu'ainsi chacune pouvait venir la trouver pour lui confier ses difficultés, son mal-être, ses peines. Voilà ce que c'est quand on perd le fil. Et cette dame se disait prête à les remettre à Dieu. Donc très fréquemment, des personnes venaient la visiter pour chercher auprès d'elle un réconfort qu'elle ne trouvait vraisemblablement pas ailleurs. Je ne peux pas vous dire dans quelle mesure toutes ces dames recevaient l'exaucement de leurs prières. En revanche, ce que je peux vous assurer, c'est qu'avec le recul du temps, je me rends compte que cette personne a reçu un exaucement, a bénéficié d'un effet secondaire inopiné de ses prières. Elle n'a jamais souffert de l'isolement et de la solitude qui sont le lot de nombreuses personnes du troisième âge. C'est donc là une réponse de Dieu éclatante, mais pas la réponse qui était recherchée au départ, ou qui était attendue au départ. Je me suis permis tout à l'heure une plaisanterie sur le paysage qu'on bouleverse, mais la réelle montagne à déplacer consiste peut-être en un gros problème qui perturbe notre vie quotidienne. Un souci qui nous paraît être monumental et qu'il conviendrait d'évacuer hors de notre espace de vie pour nous libérer la voie vers notre but. Alors, je vous invite simplement à déplacer cette montagne par la prière, comme nous y encourage Jésus. Appelle-moi et je te répondrai. J'entends parfois dire « j'ai prié avec insistance, mais je n'ai rien obtenu en retour ». Ça arrive peut-être plus souvent qu'on ne le croit. Mais ça n'est pas dû à l'inattention, au manque d'intérêt ou à la surdité du Seigneur, ni au fait qu'il n'y aurait pas d'abonnés au numéro que nous avons demandé. Je ne veux pas vous accabler, mais laissez-moi vous dire que ça vient de nous. Nous avons cherché pourquoi Dieu ne nous répond pas et nous n'avons rien trouvé. Ce n'est pas faute d'avoir été attentif, pensons-nous. Toutefois, cette situation n'est ni définitive ni irréversible. L'apôtre Jacques nous dit « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance ? Qu'il prie. Quelqu'un est-il heureux ? Qu'il chante des louanges. » Voilà une première indication. Prions pour que Dieu nous vienne en aide, puis chantons pour dire notre joie d'avoir été entendu. C'est important. Je me souviens d'avoir beaucoup insisté auprès de nos enfants pour qu'ils apprennent à dire merci. Nous aussi, ne ratons jamais une occasion d'exprimer notre reconnaissance au Seigneur. Et ainsi, nous deviendrons de plus en plus affûtés et habiles pour discerner les réponses de Dieu. Deuxième indication, c'est la fin du texte de Marc qui nous la donne. Peut-être ne sommes-nous pas en harmonie avec Dieu. Avons-nous quelque chose à nous faire pardonner? Regardons en nous-mêmes. Et si nous avons une confession à livrer à Dieu, commençons par là. Le Seigneur nous accordera d'abord son pardon, puis nous pourrons lui confier nos besoins avec foi et recueillir la solution qu'il nous propose. Enfin, que notre oui soit oui et que notre non soit non. Ainsi, Dieu agira de la même façon à notre égard et sera aussi déterminé que nous dans ses réponses. Appelle-moi et je te répondrai. Jacques ajoute, l'un de vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église. Ceux-ci prieront pour lui et verseront quelques gouttes d'huile sur sa tête au nom du Seigneur. Quand le cancer m'a attrapé il y a bientôt 10 ans, les médecins m'ont soigné, mais en me précisant que l'issue était incertaine et que ce serait un combat. Quelques semaines après, notre paroisse accueillait un culte pour les malades. J'y ai participé avec espoir. Et là, 3 personnes se sont levées, ont versé un peu d'huile sur ma tête et puis ont prié pour moi. Alors attention, je dois être précis. L'onction d'huile n'est pas une combine magique. Ça n'est pas une pratique de guérisseur. L'onction d'huile est seulement un signe d'obéissance de la part des participants aux directives du Seigneur. Et cette obéissance va fortifier leur foi en l'exaucement qui va suivre. À ce propos, Jacques ne laisse aucune ambiguïté. Une telle prière, faite avec foi, sauvera le malade. Ce n'est rien d'autre que la prière et la foi qui déboucheront sur la guérison. Et pour ma part, comme vous pouvez le constater, je suis toujours vivant. Dieu a donc répliqué avec force et efficacité à l'intercession des frères et sœurs qui m'ont entouré ce jour-là, comme il a continué de répondre à toutes celles et tous ceux qui ont persisté à me porter dans leurs prières. À celles et ceux qui se sentent faibles dans leurs prières, qui doutent, qui se croient trop petits pour que Dieu les entende, prenne garde à eux, ou qui ont l'impression que la ligne téléphonique est toujours occupée, je leur dis, demandez de l'aide. Vous pouvez participer à un groupe de prières où vous rencontrerez des personnes qui peuvent vous témoigner de leur expérience, vous faire suivre l'école de la patience et vous faire progresser dans votre contact avec Dieu. Aujourd'hui, dans cette église, je ne parle pas seulement à chacun en particulier. Je m'adresse à une communauté qui s'est réunie pour rendre un culte au Seigneur. Or, cette communauté est la vôtre. Et c'est parmi tous ces gens assemblés que vous allez trouver celles et ceux qui partageront leur pratique de la prière avec vous. Et même si vous êtes novice, ils vous accueilleront avec fraternité. Appelle-moi et je te répondrai, dit le Seigneur. Puis, il poursuit en promettant, je t'apprendrai de grands secrets que tu ne connais pas. » Alors, quels sont ces grands secrets ? Eh bien, je vous encourage à les découvrir ainsi. Retirez-vous dans un endroit calme. Ça peut être votre chambre ou au pied d'un arbre en forêt. Et entrez dans la prière. Prier, c'est se connecter en direct avec Dieu, sans intermédiaire, sans personne pour contrôler ce que nous disons. Aucun pouvoir d'aucune sorte ne peut installer des écoutes téléphoniques. Nous ne ferons pas sécher les arbres. Puisque nous sommes raisonnables, nous ne provoquerons pas non plus de glissement de terrain. Nous ne ferons sans doute pas souvent pleuvoir comme Élie, mais nous remplirons notre être entier de l'amour de Dieu. Amen.